Allô?
C'est
une pipe.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Flora Bernard, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Éric Morin et Michel Bézéquian.
Au sommaire cette semaine, quand la mixité sociale passe mal, et une conversation avec Marc Ferro.
Les Galkesvox, ils ont dit on est sauvages, ils ont dit qu'ils ont peur de venir ici, parce qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes, donc du coup, j'ai pas vraiment envie qu'ils viennent dans ce collège.
Mais il n'y a pas que l'immédiateté qui est aveugle, le temps long aussi. C'est ça le problème. C'est plus complexe qu'on croit.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la voix qui court ?
Je suis à Brest, ciel bleu et tempête, mais tempête radiophonique. C'est le festival Longueur d'onde, la 14e édition de cette ode à la création radiophonique et à toutes les nouvelles formes d'utilisation et de diffusion du son. Un scan précis et précieux de cet univers qui attire tous les passionnés qui font, écoutent et réinventent la radio. Aujourd'hui, les écoutes publiques des 22 œuvres sélectionnées pour le prix Grandes Ondes de la création documentaire ont commencé et on vient d'y entendre le reportage de Charlotte Perry, diffusé le 24 septembre dans Comme un bruit qui court, Camille Senon, une vie de lutte et d'engagement. Le jury délibérera ce soir. Allez Charlotte ! Charlotte Perry qui nous propose cette semaine un reportage sur la sectorisation scolaire, la lutte des classes et des cartables dans le nord de Paris. Et avec Guy Ventil, c'est une réflexion sur le chaos de nos démocraties avec l'historien Marc Ferro pour réfléchir sur le temps long à l'heure où l'immédiateté donne le tempo. Comme un bruit qui court, mixité sociale au collège, puis bruit de fond et temps long, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
Guy Ventil.
L'incroyable ségrégation scolaire française.
Oui, nous voulons plus de mixité sociale dans les collèges de France. Ce que nous allons faire, c'est tester une autre voie.
La ministre de l'Éducation envisage de modifier la carte scolaire. Objectif, apporter de la mixité sociale et scolaire dans des établissements devenus collèges ghetto.
D'un côté, le collège Antoine Coysevox, avec en moyenne de bons résultats. Et à 600 mètres de là, le collège Hector Berlioz, décrit comme défavorisé.
Ça monte à l'autre, va la prendre au bar. Max.
C'est votre fils là qui est arrivé.
Ouais.
Qui sort du collège.
Il sort du collège, ouais. Ça s'est bien passé ?
Ouais. Tu t'appelles comment ?
Max.
T'es en quelle classe toi ?
6ème D.
Et toi, t'en penses quoi alors de l'idée de mélanger Coysevox et Berlioz ?
Moi, je pense qu'on pourrait essayer parce que j'ai beaucoup d'amis à Coysevox. J'aimerais bien les voir un peu. Parce que je les vois plus depuis la primaire, du coup.
Parce que tous tes amis du quartier sont partis à Coysevox.
Ouais, c'est ça.
Normalement, ils auraient dû aller à Berlioz, mais...
Je pense que c'est leurs parents qui ont préféré aller à Coysevox.
Quoi, ils ont préféré, à ton avis, les parents ?
Peut-être sur les réussites du brevet, ou parce que la fréquentation du collège. Je sais pas.
La fréquentation du collège, c'est quoi, Berlioz ?
Bah, franchement, je sais pas comment répondre... Bah, c'est plus des Noirs à Berlioz et tous les Blancs à Coysevox. C'est pas mélangé, on va dire. Et les parents, je pense qu'ils ont peur, des Noirs, enfin des autres. Ils savent pas comment réagir face à ça.
Et toi, t'es un des seuls Blancs de Berlioz, alors ?
Je pense qu'on est 5 Blancs. Dans ma classe, on est 3. En 6ème, on est 5 ou 6. Et dans toute l'école, on doit être 10 maximum.
Et comment ça se passe pour toi ?
J'arrive à m'intégrer un peu, un petit peu franchement, parce qu'il y en a, ils m'arrivent pas à m'intégrer. On n'est pas beaucoup et du coup, je sais pas comment ils réagissent, ils veulent pas nous intégrer, on va dire, ils nous excluent un petit peu. Mais sinon, ça va, quand je me suis fait des amis, maintenant ça va mieux. Jamais de grands problèmes. des petites insultes, des petites embrouilles. Mais je pense que ça aurait été pareil à Quasox. Voilà. Puis Berlioz, j'aime bien. Enfin, c'est plus proche de chez moi. C'est plus pratique, c'est à 3 minutes de chez moi. Alors Quasox, c'est à 15 minutes. Puis voilà, enfin, je vois pas trop l'intérêt de déroguer pour aller à Quasox alors qu'on a un collège en face de chez nous qui est aussi bien finalement. Sauf que les parents de Quasox ont peur parce qu'ils sont différents d'eux.
Et du coup, de mélanger les deux collèges,
c'est pour leur faire découvrir Berlioz et puis surtout, ça peut faire changer d'avis d'autres collèges qui peuvent faire aussi le même système. Du coup, plusieurs collèges feront ce système, du coup ça sera beaucoup mieux. Ce sera plus les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, les riches et les pauvres, ce sera mélangé, on va dire. Voilà.
Douze ans il a, Max, élève de 6e D au collège Hector Berlioz dans le 18e arrondissement de Paris. 12 ans et déjà tellement lucide. Ce qu'il vient de nous dire résume à peu près la situation à laquelle sont confrontés de nombreux collèges français et surtout parisiens. Car Paris est l'académie la plus ségrégée de France. Dans les collèges les plus huppés, on trouve moins de 1% d'élèves défavorisés, alors que d'autres en comptent près de 60%. Et dans le 18e arrondissement, à 600 mètres de distance, il y a deux collèges. Le collège Antoine Coysevox, qui compte près de 11% d'élèves défavorisés, et le collège Hector Berlioz, qui en compte, lui, près de 50%, et où se concentre une population précaire, souvent issue de l'immigration. Partant de ce constat, les pouvoirs publics ont voté lundi 30 janvier un projet expérimental de modification de la carte scolaire, dit projet multicollège. Mais le projet passe mal du côté des parents de Coysevox, qui ont mené la fronde jusqu'au bout pour s'y opposer. Mais avant de les retrouver, petit rappel historique.
Il y a 50 ans, Jules Ferry faisait voter la première loi destinée à mettre les éléments du savoir à la portée de tous les enfants du peuple. Il voulait que tout citoyen fût mis à même d'exercer ses droits en connaissance de cause et de sortir gratuitement de l'ignorance sur laquelle s'appuie la domination des classes privilégiées.
Alors, il est quasiment 18h30, on est dans le 18e arrondissement de Paris. Là, on arrive devant la mairie, il y a beaucoup de personnes rassemblées avec des banderoles. La vraie mixité avec les beaux quartiers. Recteur de Paris, le privé te remercie. Collège Coysevox Berlioz, nos enfants ne sont pas des cobayes. Vous avez une grande banderole qui dit oui à la mixité, non à un projet bâclé.
C'est-à-dire qu'on est tout à fait en faveur de la mixité. Ce qu'on voudrait, c'est donner vraiment une chance à un projet d'avenir et surtout un report, parce que ça a été fait d'une manière assez cavalière. On nous a sorti le projet fin novembre pour le voter fin janvier, et on estime que c'est un peu précipité.
Le projet, c'est quoi? C'est de rassembler deux collèges du 18e?
Alors oui, c'est plusieurs collèges du 18e même. Notre cas n'est pas le pire, hein, puisqu'il est aussi question de rassembler deux collèges REP à Marquet-des-Poissonniers.
REP, c'est Réseau d'éducation prioritaire?
Tout à fait. Mais notre collège est loin d'être un exemple de réussite scolaire avec 80% de réussite au brevet. C'est un collège qui, justement, se débrouille bon an mal an avec justement les élèves de toutes les origines dont il dispose et qui s'en sortait plutôt, sans les honneurs, mais avec des résultats acceptables. Et là, le jumelé avec le collège le plus faible de l'Académie de Paris ne nous fait pas particulièrement peur, c'est pas le souci. L'idée, c'est qu'il faudrait réfléchir à ce que ça implique. Enfin, on verra. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un coup de poker pour nos enfants.
Vous avez un enfant scolarisé où?
Mes enfants sont en primaire. Je suis moi-même professeur.
Et donc l'année prochaine, ils iront à Coysevox?
Ils ne sont pas encore concernés, mais on se sent concernés parce que c'est la vie du quartier, c'est les enfants des gens qu'on côtoie et qu'on connaît. Et le collège Berlioz est depuis très longtemps évité par la carte scolaire, justement la sectorisation en place, depuis très très longtemps par beaucoup beaucoup de familles. Rechanger la carte en refaisant une sectorisation pour imposer à nos enfants, en l'occurrence, d'aller à 650 mètres à vol d'oiseau, mais j'ai fait le calcul, c'est presque un kilomètre à pied, pour créer de la mixité, me semble un peu irréaliste, quoi. Irresponsable peut-être même, je ne sais pas. Après, je peux entendre qu'en effet, on est des parents plus favorisés. C'est vrai qu'il n'y a pas de HLM juste à côté du collège Coisevox, c'est un fait. Ou peu, en tout cas. Il y en a. Rue Marcadaille, il y en a. Mais il y en a beaucoup moins que forcément sur la rue Béliard, sur les périphes. Voilà. On ne voudrait pas essuyer les pots cassés et enfin, être encore un peu les cobayes d'un projet pilote. Tu veux pas m'aider un petit peu, là?
Vous avez un enfant scolarisé aussi au collège Fox?
Pas encore, mais il est en CM2, donc ça veut dire qu'il rentrera en 6e à la rentrée. Donc il est concerné par ce projet qui nous semble déséquilibré, quoi. Qui est bâti sur quelques statistiques qui sont un peu réductrices.
Ce qui se dit, c'est qu'à peu près, il y a 46% d'élèves favorisés, c'est ça, à Coisevox, d'enfants, de cadres, professions libérales. Et...
Je vais partir de l'autre côté de la hiérarchie sociale. On est maintenant à 11% d'élèves défavorisés. Sachant que dans les classes de CM2, les dossiers déposés pour aller vers le secteur privé sont beaucoup plus nombreux que l'année dernière. A priori, dans la classe de mon fils, l'année dernière, à la même époque, il y avait 3 dossiers déposés pour partir dans le privé. Il y en aurait 15 cette année, donc ça fait un élève sur 2. On entend des gens qui parlent déjà de déménager.
À cause du projet ?
À cause du projet, parce que je pense que la question scolaire est devenue tout à fait décisive. Les raisons pour lesquelles les gens se déplacent, c'est souvent des raisons liées à la scolarité des enfants. Et d'ailleurs, qui peut se permettre de partir, de déménager facilement, ce sont plutôt les gens des milieux favorisés. Donc on a quand même le sentiment que le projet va plutôt tirer vers le bas. Alors peut-être que ça améliorera statistiquement un petit peu la situation de Berlioz, c'est pas impossible, je le nie pas. En tout cas, ça risque de fortement tirer vers le bas l'ensemble si on additionne les deux populations. Ça, c'est à peu près certain. Voilà. Il y a aussi des limites. Je suis favorable à la mixité à l'école de la République, mais on peut pas faire tout porter sur les épaules de quelques enfants.
Ah bah, ça y est.
Oui, 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 à la mixité.
Parents d'élèves, vous avez une grande pancarte. Cordebar fait des expérimentations avec nos enfants. Qui c'est Cordebar?
Cordebar, c'est la chargée de l'éducation à la mairie de Paris. Voilà, et elle parle beaucoup d'expérimentation avec nos enfants. Voilà, voilà, voilà.
Et du coup, vous allez faire quoi si le projet y passe?
Ah ben, j'en sais rien. Je me questionne, je sais pas. Que faire? On est un peu pris en otage, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? À part partir dans le privé, voilà, c'est peut-être la solution, j'en sais rien.
Vous faites quoi dans la vie?
Je le dis ou pas? Non, je vais pas le dire, je crois. Je suis freelance. Hein.
Il y a du monde qui est arrivé.
Oui, apparemment on serait une centaine d'après la police.
Une centaine de parents et d'enseignants?
Oui, oui, oui. Les deux, depuis le début du mouvement, les parents sont avec les enseignants en réalité.
Vous êtes enseignant?
Moi je suis professeur de français, hein, au collège Coisevaux.
Et vous?
Et moi je m'appelle Marion, je suis professeur de maths au collège Coisevaux. Le souci c'est qu'on va arriver avec deux collèges qui auront environ 35% d'élèves défavorisés dans chacun. Et par expérience, on sait tous en fait qu'à plus de 10 élèves par classe défavorisés, on n'arrivera pas à avoir la même qualité pédagogique que ce qu'on peut faire en ce moment. Et en intégrant un troisième établissement du niveau d'une autre ou supérieur au nôtre, on aurait une mixité efficace scolairement.
Après, il faut aussi comprendre certaines réactions anxiogènes du point de vue des parents, hein, parce que c'est des collèges qui ont des histoires un peu antagonistes. Quand il y avait du racket, c'était les élèves de Berlioz qui venaient faire du racket à Coisevaux. Hein, Berlioz, c'est un collège qui a grosso modo entre 40 et 60% de réussite au brevet selon les années. Hein, par exemple, en 2015, qui sont les derniers chiffres auxquels on a eu accès officiellement, ils ont des résultats de 48%, nous on est à 80%. Donc si vous voulez, on voit pas comment Coisevaux à lui tout seul peut compenser ces difficultés-là.
Bah si, regardez les chiffres.
Pas d'accord.
Bah non, je suis pas d'accord du tout.
Vous êtes...
Moi, je suis prof, enfin j'étais pendant 42 ans prof, et je trouve que ce qui se passe là, c'est assez choquant. Parce que sous prétexte qu'il y a des imperfections, et je conçois qu'il y a des imperfections, c'est une volonté politique, enfin, pour qu'il y ait une véritable mixité.
Vous êtes favorable alors au projet ?
Je suis favorable au projet dans la mesure où le projet peut être amélioré très nettement. Mais je pense que ce genre de choses, c'est une manière un peu déguisée de dire on ne veut pas vraiment d'une mixité. Voilà. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de collèges qui sont devenus des collèges ghettos sur le 18e. Clémenceau, Marie Curie, hein, il y avait des classes ethniques. Et là, il y a une volonté véritablement de mélanger des populations qui vivent à 500 mètres les unes des autres et qui sont séparées par des barrières scolaires à l'heure actuelle. On n'aura jamais de véritable mixité s'il n'y a pas de mixité scolaire.
Ce n'est pas le problème, monsieur, la question.
Un projet qui réussisse.
Quand vos gamins seront plus scolarisés là, c'est tout. Vous n'avez rien à craindre, d'être associé à Berlioz.
Des faits, quoi, des faits. Arrêtez avec vos clichés, vous les avez ramassés où, quoi? C'est pas possible. Mais oui, et alors, ouais.
Est-ce que vous êtes représentative de la population scolaire de Coisevaux en termes de parents d'élèves?
Pourquoi pas? C'est à quoi vous voyez que je suis pas représentative?
Ça veut dire quoi?
À quoi vous voyez que je suis pas représentative? Dites-moi à quoi vous voyez que je suis pas représentative? Vous la voyez à quoi la représentativité, vous? Vous croyez? Mais si, vous m'insultez.
Non, je vous insulte pas.
Vous me dites que je suis pas représentative, mais je suis élue. Je suis représentative parce qu'il y a une démocratie et que je suis élue. Et je vous emmerde.
Ce collège Berlioz, il a été abandonné pendant 10 ans par les pouvoirs publics. Il se retrouve avec 5% de population très favorisée lorsque normalement il devrait en avoir 20 si on voit leur bassin de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de confiance avec le collège Berlioz et par rapport au bassin de recrutement. Il est là le problème. Alors on comprend bien qu'un projet de mixité, ça pourrait aussi ramener éventuellement ses parents vers Berlioz, mais comment voulez-vous que les gens de Coisevaux réagissent? Les parents de Berlioz qui peuvent mettre leurs enfants ailleurs, les y mettent en dehors de certaines personnes qui vont faire, on va dire, par militantisme. Tout le monde n'est pas militant. Voilà.
Au pays de l'égalité. Écoute ça. Écoute ça. Une classe sociale de souillons qui met tout son dévolu dans les études pour que son statut d'exclu évolue. Mais vu qu'il est peu possible qu'une masse entière soit promue, plus elle monte vers la culture, plus la culture s'échappe au-dessus. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes. Et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
La mobilisation se poursuit devant la mairie du 18e. Environ une centaine de parents.
Vous avez des enfants scolarisés?
J'ai mon fils qui est scolarisé à Coisevaux en 6e cette année. Je tiens un commerce avec mon mari, la boulangerie sur la place Jacques Franman, donc on est très concernés.
Il y a des gens qui partent, hein. J'ai entendu des clients qui vendent leur appartement, qui quittent le quartier pour ne pas scolariser leurs enfants dans le collège, à cause de cette fusion entre Berlioz et Coisevaux.
Parce que Berlioz a une si mauvaise réputation que ça?
Ah oui.
Ah oui. Oui, j'ai l'agence immobilière en genre juste en face qui est inquiète parce que je leur demande si les établissements dans le quartier sont bien ou pas. Donc en fait, si cette fusion se fait, économiquement dans le quartier, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Donc il va y avoir des gens qui vont déserter le quartier.
Non, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas un amalgame en prétendant que les parents de Coisevaux sont contre la mixité sociale. C'est absolument faux. Subitement, on a l'impression d'un kidnapping, par exemple, des élèves de 4e qui vont devoir aller finir leur scolarité dans un collège qui a 46% de réussite au brevet. Enfin, en tout cas, pour les élèves de 4e, on a peur du sacrifice. C'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire les efforts.
Vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je suis architecte d'intérieur, profession libérale.
Et votre enfant, il en pense quoi de peut-être intégrer Berlioz ?
Elle est inquiète. Eux, ils ont une vision du collège Berlioz parce qu'ils ont une cohabitation de rue, on va dire, pour le moment. Donc ça se passe pas toujours très bien en dehors des enceintes des établissements. Si ces personnages-là, ils les retrouvent en classe, vous pouvez vous imaginer que ça peut poser des soucis. Ils sont inquiets, ouais. Mais encore une fois, s'il y avait une démarche un peu plus humaine, eh ben nous, on pourrait aussi rassurer nos enfants en disant que tout va très bien se passer, etc. Sauf que là, on n'est pas dans cette attitude, on ne sait pas. Nous-mêmes, on est très inquiets. Alors comment voulez-vous qu'on rassure nos enfants? C'est impossible.
C'est fini, on va se coucher. C'est terminé. Allez, allez, au dodo.
Vous repartez avec votre pancarte Collège Colvox Berlioz, nos enfants ne sont pas des cobayes.
Exactement. On va aller coucher maintenant. Hein.
L'école est le premier lieu. Vive l'égalité. L'égalité fait feu.
Vive l'égalité.
Mettre au même niveau les gueux.
Vive l'égalité.
Et les tenanciers des lieux. Mais les codes restent mystérieux.
Vive l'égalité.
Pour les enfants insoucieux.
Vive l'égalité.
Qui n'ont pas même parents que ceux.
Vive l'égalité.
De la FCPE, car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses corps, et il faut qu'il se transforme et rester privilégié.
Moi je suis pour la mixité sociale.
Oui, la mixité, on la veut tous, mais pas une mixité que pour les classes moyennes.
On n'habiterait pas dans le 18e si on n'était pas pour la mixité. Donc.
Je suis favorable à la mixité à l'école de la République, mais il y a aussi des limites.
Hashtag comme un bruit.
Là, vous faites quoi, là, les besoins poussés? Alors, reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît.
Merci.
Allez, Charlie.
Bonjour. Toi, tu t'appelles comment?
Fatel.
T'as quel âge?
12 ans.
Dans quelle classe?
5e.
Et t'en penses quoi, toi, du rapprochement entre Berlioz et Coysvox?
Je veux pas.
Tu veux pas?
Parce que j'aime pas Coysvox.
Pourquoi?
Parce qu'ils nous aiment pas.
Pourquoi tu dis qu'ils nous aiment pas?
Parce qu'ils disent qu'il y a que des Noirs et des Arabes. Donc ils... Oh. Ils tiennent des propos très racistes.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, s'ils viennent ici, ils vont voir. Hein. Ils vont voir comment on est. On n'est pas si sauvages que ça. Hein. Et je dis même que c'est eux les plus sauvages. Hein.
Pourquoi?
Parce que, regardez, nous, on n'a rien dit quand on a eu l'information. Alors que eux, ils ont commencé à faire une manifestation, on va dire comme ça, jusqu'à aller jusqu'à la mairie.
Parce qu'ils ne voulaient pas se rapprocher de vous.
Oui, parce qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes.
C'est vrai ou pas?
De quoi?
Qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes.
Je ne vais pas dire que c'est faux, mais on est tous mixtes. Il y a des Espagnols, il y a tout en fait. On est une école mixte, alors que eux, il n'y a que des Français et nous, on est plus mixtes que.
Et du coup, toi, ça t'a choqué qu'il y ait des manifestations comme ça?
Oui, parce que c'est comme si on n'était pas des êtres humains, c'est comme si on n'était pas des élèves comme eux. Et voilà.
Et les parents là-bas à Coysvox, ils ont peur ici, ils disent qu'il y a de la violence.
Ils ont peur parce qu'ils entendent des rumeurs, mais ils ne sont même pas venus vérifier par eux-mêmes, donc je trouve ça bête en fait.
Je m'appelle Lenny, je veux pas que Coysvox vienne ici.
Pourquoi?
Ils ont dit qu'il n'y a que des Noirs, des Arabes, madame.
Ils ont vraiment dit ça?
Oui, ils ont dit ça.
Où est-ce que t'as entendu ça?
Partout, dans tout le quartier.
Dans tout le quartier.
Ils sont venus faire une manifestation.
Il n'y a que des Noirs, des Arabes, on a peur, tout ça.
Ils ont dit, ils ont peur.
C'est une insulte en fait.
Madame, j'ai des captures d'écran des gens du collège qui envoient des messages aux autres gens pour faire un groupe contre nous parce qu'on est trop sauvages. J'ai les captures d'écran, si je veux, je les montre même à la mairie.
Au revoir, madame.
L'incroyable ségrégation scolaire française.
Oui, nous voulons plus de mixité sociale dans les collèges de France. Ce que nous allons faire, c'est tester une autre voie.
Un pari risqué, le sujet de la carte scolaire est ultra sensible du côté des parents.
Et là, nous, on va aller retrouver justement un parent élu du collège Berlioz. Dans un petit café, juste à la sortie du collège. La bricole.
Allez.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et vous?
Ouais.
Je vais m'asseoir.
Ouais.
Merci. Vous appelez comment?
Moi, je m'appelle Luc.
Vous êtes donc parent d'un élève qui est scolarisé au collège Berlioz, qui est juste là, au bout de la rue.
Oui, j'ai un petit garçon qui a 12 ans, qui est en 6e au collège Berlioz. Et connaissant la réputation du collège, vivant dans le quartier, sa mère et moi, contrairement à beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont le choix, on a d'abord considéré qu'on n'avait pas vraiment le choix. C'est le collège de notre quartier. Alors, l'inquiétude, elle est légitime. Nous, ce qu'on a toujours dit à notre fiston, c'est que tu vas aller au collège Berlioz, et si ça marche pas, s'il y a des problèmes, si tu es malheureux, on te sortira du collège. On va pas te laisser, on va pas te sacrifier. On nous accuse de ça, de sacrifier nos gosses sur l'autel d'un beau principe républicain, de gauche, je sais quoi encore. C'est stupide. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Personne ne demande de se sacrifier. C'est vraiment une espèce de fantasme. Les enfants qui sortent et qui ont des bons résultats scolaires à Berlioz ont les mêmes parcours scolaires, même parfois meilleurs, que leurs camarades venant d'un autre collège. Simplement, une immense majorité des gens qui vivent là, qui sont comme moi, blancs, des cadres, des enseignants, des professions libérales, des salariés, évitent le collège Berlioz. C'est devenu presque un automatisme.
Et du coup, la mixité du quartier, elle n'est pas reflétée dans le collège.
La conséquence visible, c'est que vous promenez dans le quartier, vous êtes dans un quartier parisien populaire, où vous voyez des gens blancs, des gens d'origine de l'Asie, des gens d'origine d'Afrique du Nord, des gens noirs. Et ben, vous rentrez dans le collège Berlioz, non. 80% sont noirs de peau. Alors, c'est absurde, parce que ça indique quoi à ces gens? Ça leur dit qu'ils ne peuvent pas se mélanger à nous, blancs. Alors, on va s'ignorer. Du coup, on va se détester. Du coup, on va se taper sur la gueule, quoi. C'est ça qu'on veut. C'est ça, l'alternative. Et là, ce qui est en train de se passer, si on ne fait rien, ici comme ailleurs, d'ailleurs, c'est que on va organiser la vie de telle sorte que les blancs sont avec les blancs, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les noirs avec les noirs, et ainsi de suite. On va aligner les catégories et on va dresser des murs. Voilà, c'est Trump qui aura eu raison. Ça va mal se terminer. Cette histoire va mal se terminer parce que si les uns ont peur de l'inconnu, les autres ont peur du regard des premiers. Et que se sentant regardés, observés, défiés, mal aimés, comment réagissent-ils? Nous sommes des mal aimés, et ben on va vous le faire payer. Non, c'est un drôle de truc. Hein. Il faut entendre ce que les gens disent. Il faut entendre la peur. Elle nous raconte quelque chose de notre histoire contemporaine. Ça nous raconte quelque chose. Tous les arguments, vraiment le fond de tiroir des arguments sont mis en avant pour ne pas dire « on ne veut pas se mélanger ». Cette phrase qui a été prononcée par cette femme à la première réunion « mais enfin, monsieur, j'ai quand même emprunté sur 25 ans pour acheter mon appartement, c'est quand même pas pour voir mon fils scolarisé au collège Berlioz ». Voilà la synthèse. Le déclassement des classes moyennes, blanches, qui tout d'un coup se voient confrontés là, au bout du jardin, les gens ne sont plus tous blancs, les gens ne sont plus tous professeurs, infirmiers, cadres, non, c'est autre chose. L'autre jour, il y avait un homme devant le Monoprix qui s'est mis presque à pleurer à l'idée même que sa fille ou son fils pouvait être scolarisé à Berlioz, à pleurer. Et la députée de l'arrondissement, Madame Le Petit, est venue à la rescousse en lui disant « Mais monsieur, mais faut pas pleurer, quoi. Faut aller voir. Vous verrez qu'ils sont pas... Voilà. Les filles ne sont pas violées, les garçons ne sont pas drogués, les cours durent 55 minutes, les professeurs sont présents, ils sont respectueux, les enfants, quand ils sont pas respectueux de leurs professeurs, sont punis, ils sont collés. Ça va. »
Ce sont les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de les papillements de mes frères, mes copains du c'est pas trop tard.
C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passé, de nos conneries recouvertes.
Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon.
En gueulant les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long.
Et c'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, c'est moi un rêve, je te le paierai en fou. Il n'est pas l'heure de la trêve, on laissera pas le point mourir.
viennent ici, bah, ils vont voir comment on n'est pas si sauvage que ça. Hein.
Quand la peur du déclassement devient le seul compas, on en vient à voir des sauvageons partout. Alors Charlotte, sortie saine et sauve de chez les petits collégiens?
Tout va bien, Guy, je te rassure, tout va bien. Et pour tenter de rassurer les parents, on ira la semaine prochaine passer un peu plus de temps au collège Hector Berlioz. Mais pour l'instant, après les petits jeunes, Guy, tu nous emmènes à la rencontre d'un grand monsieur.
Oui, pour une fois, je vous propose un reportage assis, une conversation qui nous parle de l'histoire, de la mémoire et d'aujourd'hui. À l'heure où le modèle Trump donne des ailes aux populistes un peu partout et où les candidats issus du système proposent l'antisystème et la révolution comme argument de vote, nous sommes allés voir et rendre visite à l'historien Marc Ferraud. À 92 ans, cet esprit encyclopédique, toujours en train d'écrire deux livres, passe en revue des thèmes comme populisme, identité, marché, pouvoir, progrès, pour tenter d'en mesurer les évolutions dans le temps long. Avec de notre part une question naïve, notre époque de crise économique chronique et de crise du système politique a-t-elle quelque chose à voir avec les années 30? Jusqu'à 17h sur France Inter, bruit de fond et temps long, conversation avec Marc Ferraud.
Merci.
Il est la figure de proue des historiens français en racontant 30 ans d'histoire ou ses histoires parallèles. Directeur d'études à l'école des hautes études, directeur de la revue de Fernand Braudel Les Annales, il est aussi un spécialiste de la révolution russe, l'immense Marc Ferraud. Marc Ferraud, bonjour.
Marc Ferraud.
Marc Ferraud, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci, vous m'accueillez.
Entrez. À droite.
Je file.
Et à gauche.
Là.
Là-bas, mettez vos affaires ici.
Très bien.
Asseyez-vous là-bas. Merci. Vous prenez un petit coca. Voilà.
Marc Ferraud, merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau. Je dois l'avouer, c'est un peu un capharnaüm aussi.
Oui, mais il faut bien, hein, autrement je ne m'y retrouverai pas.
Vous êtes toujours en train de travailler.
Bien sûr.
Vous avez longtemps, on le sait, travaillé sur la Russie, justement. Vous avez longtemps travaillé aussi sur les mouvements de décolonisation, mm-hmm. sur le cinéma et l'histoire, sur notre histoire immédiate.
Voilà.
Mais c'est un peu pour ça aussi que je suis venu, pour la réflexion sur le temps long. Mm-hmm. Dans la suite du dernier livre que vous avez fait sur l'aveuglement, sur mm-hmm. comment, à différentes époques, les sociétés sont incapables de voir ce qui leur arrive. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut apprendre justement de ce chasser-croiser entre le temps long et l'immédiateté qui nous aveugle tant?
Mais il n'y a pas que l'immédiateté qui aveugle, le temps long aussi. C'est ça le problème. C'est plus complexe qu'on croit. Bon, il n'y a pas de doute qu'on est aveuglé. Moi, mon aveuglement personnel est venu de mon séjour long en Algérie, quand j'étais professeur de 48 à 56, où j'ai bien vu qu'en métropole, il y avait un déni. On ne voulait pas voir la réalité du problème algérien.
L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne.
Il ne s'agissait pas d'être de gauche ou de droite. Il s'agit effectivement d'un aveuglement. Et c'est comme ça que j'ai été amené à vouloir faire un doctorat sur comment a-t-on interprété la révolution russe en 1917. Est-ce qu'on s'est aveuglé sur elle? Ou après même, n'est-ce pas? Et on sait qu'on s'est aveuglé. Ça pourrait s'aveugler, on s'est aveuglé. Mais l'aveuglement, je veux le dire tout de suite, est souvent à double face. Dans le cas de la Russie, autant nous savons très bien comment les premiers pèlerins des années 20 ont vu tout beau et en ont eu honte après, n'est-ce pas ?
La vie est toujours plus belle dans les cités ouvrières et les kolkhozes, où les fleurs tapissent les pelouses et égayent tous les logements.
Ensuite, sachant les horreurs qu'il y a eu, ils ne voulaient pas croire que c'était possible, vu le sens de l'histoire qu'ils avaient en tête. Et ils ont donc jugé que ça a eu lieu, c'est vrai, mais c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement. Vous voyez, c'était plus la naïveté, c'était l'aveuglement théorique, si j'ose dire.
Le pays soviétique va vers l'abondance. Chacun travaille, chacun récolte les fruits du travail de tous. Vive jamais!
Mais maintenant, je me suis aperçu que le type d'aveuglement qu'a secrété le cas russe, il y en a d'autres. Il n'y a pas que la naïveté, il n'y a pas que la crédulité, le déni...
L'autopersuasion.
L'autopersuasion, dans les deux sens du terme. Il se peut qu'il y ait d'autres formes de volonté de ne pas voir. Bon, l'aveuglement qu'on suscite, qu'on crée soi-même. Alors, il y a des champions, nous les connaissons. Dans le cas de la Russie, dont je me suis occupé le plus, Gorbatchev, qui était convaincu qu'il fallait changer complètement le régime, parce que, disait-il, tout est pourri, pays ingouvernable, tout est pourri. Ben, le même Gorbatchev, quand il s'adressait au public, il disait
« Chers camarades,
le parti va arranger tout ça, en s'appuyant sur Lénine.
Aujourd'hui, devant le peuple soviétique, le Parti communiste et le Politburo du Comité central affirment fermement leur volonté inébranlable de servir fidèlement la cause du socialisme et du communisme. »
Donc, il y a une stratégie. Roosevelt, ça a été également, il a eu une tactique de préparation des États-Unis à la guerre, puisque les Américains étaient contre la guerre en 1941, comme vous savez.
This nation will remain a neutral nation.
Le meilleur, ça a été quand même de Gaulle, je vous ai compris, qui savait qu'on l'applaudirait tellement qu'on n'écouterait pas la suite.
C'était son premier discours en Algérie.
Oui, en 1958. Il était tellement attendu, avec une foule enthousiaste, lui ayant dit à ceux qui connaissent l'Algérie que jamais il ne lâcherait un centimètre carré, et à ceux qui ne connaissaient pas l'Algérie, en France, il disait « c'est inéluctable, on va la perdre ». Donc il avait ce double jeu, cette double parole, mais qui était même du théâtre, puisque en disant « je vous ai compris », il savait très bien qu'on acclamerait tellement qu'on n'écouterait pas la fin de la phrase « désormais, toutes les personnes qui vivent en Algérie seront égaux », c'est-à-dire les Arabes et les Français, vous vous rendez compte?
Donc, c'est inacceptable pour la société coloniale.
Donc il y a aussi cet aspect d'aveuglement qui est suscité. Il y a toute une palette, et c'est ce que j'ai pu dire.
Bonjour Éric Zemmour.
L'enseignement de l'histoire fut érigé par la République comme une machine à fabriquer des Français. Une histoire avec ses héros, ses épopées et ses malheurs. C'est ainsi que fut édifié le roman national français.
À le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois.
À contre-courant de la bien-pensance, je vais dire que tous les enfants de France ont pour ancêtres les Gaulois.
Qu'est-ce que je demande? Je demande qu'on enseigne l'histoire de France. Voilà. J'en ai assez que ce soit des idéologues qui, dans le fond d'un bureau à l'inspection générale, bâtissent des programmes.
Depuis 30 ans, des historiens ont décidé de détruire ce roman national français.
Et voilà, Marc Ferraud, voilà un exemple aussi comment l'histoire mal digérée ou interprétée avec des œillères peut peser sur notre présent.
Absolument.
Et c'est un peu pour ça que j'avais envie de vous soumettre les thèmes qui courent dans nos sociétés aujourd'hui, dans nos sociétés globalisées. Il y a un des thèmes qui revient beaucoup aujourd'hui, à nouveau, dans cette période électorale, c'est le roman national.
Oui. Bien, le roman national, quand on est historien, on sait qu'en partie c'est une fiction. Pour ne pas être partisan, je prendrai un exemple neutre, Charlemagne. Bon, je veux dire, Charlemagne, c'est quand même loin. Tout ce qu'on a dit sur Charlemagne est faux.
Ah bon?
Oui. D'abord, c'est pas lui qui a créé l'enseignement pour les enfants et les écoles.
C'est pas lui qui a eu cette idée folle?
Non, il était illettré lui-même. Oui. Et vraiment, il n'y a jamais pensé. Mais on a créé un beau jour à Paris une université. Et pour la glorifier, on lui a donné le nom de... Voilà. Ensuite, il n'avait pas de barbe spécialement. Bon, ensuite, c'était un grand massacreur. Parce qu'enfin, quand on nous apprenait à l'école le massacre des Saxons, on nous montrait ça comme une victoire. Ouais. Il était sympa, Charlemagne, il a massacré les Saxons. C'est quand même un roman qui n'est pas forcément très moral, mais on s'en apercevait pas. Mais cette image peut se perpétuer dans le positif, mais aussi dans le négatif. À l'île de Saint-Thomé, au large de la Guinée, il y a une fête qui s'appelle « Le souvenir de Charlemagne et le drame qu'on a connu ». Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'un certain empereur Charlemagne a conquis l'île de Saint-Thomé, que son fils a commis un crime, mais qu'on l'a tout de suite innocenté. Ensuite, que son descendant a commis un crime aussi, mais on l'a aussi innocenté. Et cette histoire, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes, nous présente les policiers qui arrêtent celui qui est coupable et le relâchent, chaque fois, avec des uniformes différents. En guerrier franc au début, ensuite en chevalier du Moyen-Âge, ensuite, en homme du XVIe siècle, et à la fin, en policier de Saint-Lazare.
Voilà. Portugais de la dictature coloniale.
Exactement. Donc, pour parler de l'ancienneté de leur malheur...
Ils allaient jusqu'à convoquer Charlemagne.
Ils convoquent Charlemagne, qui apparaît comme le tyran type des Africains. Donc, cette histoire est intéressante, parce que c'est montré que le roman national existe partout, que ce roman national sert de support à des tas de conflits qui renaissent subitement, n'est-ce pas, comme une boîte d'allumettes, alors qu'on les croyait éteints.
Charlemagne, mais oui. Charlemagne, mais oui. Fut sacré empereur des Francs.
oui, empereur Roland 800.
Et le fait que ça soit reconvoqué aujourd'hui en France,
ça l'est pas plus qu'il y a 30 ans ou il y a 50 ans.
Voilà l'avantage du temps long.
On apprend tout ça dans l'histoire de France. On nous bourre la tête pendant notre enfance. Mais aujourd'hui, moi, je tiens ma vengeance. Et je m'en sers pour en faire une danse.
Bruno Camus, la crise ne sert qu'à en dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation. En ce sens, la crise économique me semble relativement secondaire.
Je pense qu'il y a tous les risques d'un grand remplacement.
Et la disparition du peuple français.
Parce qu'un des termes d'aujourd'hui encore, c'est celui d'identité qui revient. Avec son corollaire de l'immigration, invasion, grand remplacement. Toujours la même question de l'identité nationale.
Oui. Alors, ce nationalisme, je pense qu'il est un type un peu nouveau. Souvent, on opposait le patriotisme, qui est la défense de sa terre, et le nationalisme, qui est un peu la conquête de la terre des autres.
Au nom de valeur.
Au nom de valeur, bon. Aujourd'hui, il renaît un nationalisme, mais je ne sais pas s'il est conquérant. Je dirais qu'il est identitaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'exemple type, si vous voulez, c'est les Anglais, avec leur Brexit, parce que les deux pieds du Brexit, ça a été celui qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire il y a trop de Polonais, n'est-ce pas ? Donc ça c'est nous, il y a trop d'Arabes, d'autres il y a trop de ceci,
de Turcs en Allemagne,
etc. Hein, ça on connaît. Mais de l'autre côté, ce qui est très frappant, c'est que les Anglais étaient indignés que leurs lois soient dominées par les lois de l'Union européenne, qui doivent soumettre leurs lois à eux, les Anglais, qui sont Anglais depuis toujours, que c'est des gens de Bruxelles, on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, qui maintenant disent « Non, votre loi ne vaut rien, c'est la loi de l'Europe qui doit commander. » C'est un dessaisissement insupportable.
Anger at the establishment over immigration and the economy, bottled up since the financial crash of 2008. First Farage's Brexit success, then Trump did the unexpected, rode a tide of populism to electoral triumph. So how did it happen and what could come next?
Et c'est ce dessaisissement, je crois, qui est le trait dominant de notre époque. Les politiques sont dessaisis du pouvoir en tant que responsables de l'économie du pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir représentatif a défini ses limites.
Le pouvoir n'a plus de pouvoir.
Le pouvoir n'a plus de pouvoir. Que ce soit le président de la République, on sait bien, même s'il est énergique, puisqu'on a eu un super énergique qui n'a rien fait, et un
Sarkozy
énergique qui... Ah, c'est vous qui le dites, c'est pas moi.
Moi, je mets juste les sous-titres, après, les légendes. Et le deuxième, c'était...
Le deuxième, c'était le suivant, qui, lui, à force de chercher le moyen terme, ne faisait rien. Enfin, j'exagère. Il a fait des choses, mais ce qu'il a fait ne correspondait pas à ce qu'on attendait de lui. Alors, c'est un peu la même chose. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que le pouvoir a été dessaisi de son pouvoir. Et on répète tous les matins, depuis que Trump est élu, que tout ce qu'il dit, c'est des phrases, il ne pourra pas le faire, il sera barré, même s'il a la majorité dans les deux assemblées, tralala, tralala. Mais c'est là qu'est le problème.
C'est ça.
C'est que le pouvoir représentatif qu'incarnait la démocratie, ou qui était censé incarner la démocratie, ou la République, comme vous voulez, est quelque chose maintenant qui ne fonctionne plus.
L'asphyxie du politique amène des solutions radicales. C'est un appel d'air.
Voilà, exactement. Donc c'est ça qu'on dit qu'on est contre le système. Pour autant que maintenant, nous ne sommes plus maîtres du marché, et on peut changer de gouvernement, ça ne changera rien. Parce qu'on peut protester et avoir un horizon. Quand on est intégré dans la machinerie de la mondialisation, on ne peut plus s'en sortir. Et on peut changer tous les gouvernements qu'on veut. Ce n'est pas ça qui modifiera, qui rendra du travail. Donc, c'est ça le vrai drame. Ils sont dessaisis de la parole. Et quand ils parlent, il faut qu'il y en ait un qui soit un champion pour sortir de...
Celui qui criera le plus fort.
Oui, en gros. Ou qui aura un style qui le fera remarquer.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République.
Vive la France !
Marc Ferro.
Aujourd'hui, ce que on ne veut pas voir, c'est plutôt qu'il y a un retournement du pseudo-sens de l'histoire. On avait la certitude que l'histoire allait, depuis la Révolution française et les Lumières pour toute l'Europe, dans le sens des droits de l'homme, dans le sens de la démocratie, ou dans le sens de la République, ou dans le sens... Enfin, bref. Et d'un seul coup, en 1933, j'allais dire que la raison qui était soi-disant le moteur du progrès a été dénudée. Parce qu'avec le nazisme, c'est plus la raison qui l'emportait, c'était la passion. Donc, il y a eu une sorte de retournement qui a commencé à ce moment-là, enraciné dans l'histoire allemande, existant également en France, et qui aujourd'hui a gagné avec la faillite, si je puis dire, des démocraties, au point de vue économique, politique, social, un peu toute la planète. Donc aujourd'hui, on se réinterroge, on ne croit plus au sens unilinéaire de l'histoire.
Mais justement, c'était un des termes que je voulais vous soumettre. C'était celui de progrès aussi. Parce que maintenant, c'est un terme qui a complètement disparu de l'horizon politique ou de l'horizon social. Maintenant, on parle d'adaptation, de retour. Les seuls qui parlent de progrès, à la rigueur, c'est la Silicon Valley, de la nouvelle économie.
On parle de progrès, ceux qui en bénéficient. Sont libéraux, ceux qui en ont l'avantage. C'est clair. Mais ça occupe l'essentiel de ce qu'on appelle les classes dominantes. Mais pour en revenir à ce que vous demandez, ce retournement est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. Quand Hitler a pris le pouvoir, les marxistes et la pensée dominante ont jugé que c'était un moment aléatoire et éphémère. Et qu'on voit ressurgir un peu de partout aujourd'hui, où la raison résonante, etc., sont quelquefois submergées par la passion et par des pulsions qui n'ont plus rien à voir avec les droits de l'homme.
Les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature.
Anna Arendt.
La dictature dans le sens original du mot n'est pas une tyrannie, c'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. La dictature est limitée dans le temps. La tyrannie ne l'est pas.
Alors justement, ça c'est un autre terme, Marc Ferro. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme pour décrire les passions tristes qui habitent beaucoup de nos sociétés aujourd'hui. C'est populisme, ou en tout cas de solution, de sortir du système, même si c'est présenté par des tenants même du système. Là, on pense à Trump, bien sûr, mais on pense aussi, dans nos sociétés à nous, il n'y a pas un candidat qui veuille défendre le système aujourd'hui. Et beaucoup de gens, alors à tort ou à raison, vous allez me le dire aussi, évoquent le spectre des années 30.
Oui, on n'a pas tout à fait tort d'évoquer le spectre des années 30 par certains aspects de la situation. Cette situation, c'est que pour des raisons différentes, mais finalement semblables, les travailleurs, ou plutôt les classes de travailleurs, les classes de la classe ouvrière, voient la crise et le chômage les toucher plus que tous. Et ça, on avait ça en 1923, puis surtout en 1929 et 30. Bon, et on le voit maintenant aussi. Et on voit bien que ça semble quasiment irréversible, alors qu'en 1930, on ne pensait pas. Bon. Deuxièmement, les classes moyennes voyaient leur statut se dégrader. Et rien n'est pire pour un groupe social ou pour une personne que la dégradation.
Précarisation, terme économique.
Oui, précarisation, terme économique, mais c'est surtout social. Enfin, c'est surtout culturel.
Déclassement qui va avec.
Déclassement, c'est le déclassement. Ce que Hitler a fait d'extraordinairement intelligent, c'est que tous ces déclassés, qui aux États-Unis existaient aussi après la crise de 1929, et qui aux États-Unis, gamelle à la main, mendiaient une soupe, Hitler, lui, invitait les déclassés autour d'une table, riches et pauvres les uns à côté les uns des autres, et servis par des jeunes gens, ce qui était déjà un retour à la dignité. Et à peine ils sortaient de table, servis par des jeunes gens, qu'on les habillait, qu'on les transfigurait. Et d'un seul coup, les damnés de la terre, ils les transformaient en virtuels héros d'une société nouvelle. C'est ça qui a été son trait, qui l'a distingué des autres partis d'extrême droite, qui, eux, faisaient ce que font toutes les forces dominantes, un peu de charité ou autre chose, vous voyez. Bon. Donc, c'est là qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne l'a pas vu, mais ça s'est répété, parce que, rappelez-vous, en Algérie, le FIS,
Front islamique de salut.
Comment il a gagné tous ses électeurs? Justement, en invitant les jeunes et tous à jouer au football, à pouvoir manger. Et la mosquée, à ce moment-là, servait, si je puis dire, de lieu social, de convivialité. Un peu comme à d'autres époques de l'histoire, l'église, où les paysans, en cas d'orage, faisaient se réfugier leurs vaches, et où les gens venaient également s'abriter. Donc, c'est ça que l'islamisme a repris d'une certaine façon à ceux qui ont compris quel était le désarroi irréversible de ceux qui étaient destitués de leur statut. Donc, tout ça, ça explose en même temps, et en ce moment, c'est Zourosh.
Surproduit la crise, mon nom est effacé de la frise, non conforme aux normes de cette terre promise. Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'ils en savent, nos récits récidives, car maladive et la haine qui active nos salives. Fils de prolo, enfant prolixe, avec des envies de meurtre et des envies de luxe dans le lexique de nos lyrics. Qu'est-ce qu'on nous offre? Les affres d'une réalité affreuse, un faciès en crise, une conscience creuse. Les purs produits de la crise ont la phrase acide. Chapitre 1, épisode 1, spécial homicide.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Marc Ferraud, dernière question. Pour un peu d'espoir, pourquoi pas, vous parliez de crise de système de nos sociétés, à la fois politique et économique aussi, par le ressort économique, si j'ai bien compris. Quelles sont les issues, les perspectives que vous pouvez voir?
D'abord, il y a des signes de résistance à la détérioration. Alors, j'en dis quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Le premier qui m'est venu à l'esprit, d'optimisme, c'est ce qui s'est passé en Europe centrale. L'Europe centrale porte le drapeau de la réaction, ouvre les guillemets de la fascisation, ferme les guillemets, parce que c'est peut-être pas du fascisme, mais peu importe, c'est à peu près la même chose, ça ressemble.
On pense tout de suite à Orban en Hongrie,
Orban
en Pologne.
Bon. Donc, dans ces pays qui ont toutes les raisons d'être rancis, surtout la Pologne à cause de l'occupation par les Russes, sans parler du communisme après. La Hongrie, c'est que le communisme. Mais enfin, ça fait quand même pas mal, 40 ans. Que ces pays soient rancis et que ça ajoute à des rancœurs qu'on retrouve dans tous les pays du monde quand ça va pas bien, ceci, cela, on le comprend. Mais au milieu de cette rancœur qui a amené ce sursaut de chauvinisme raciste contre les réfugiés, il y a quand même deux faits qui méritent un clin d'œil. C'est qu'en Pologne, les femmes ont manifesté contre les lois qui ne leur permettaient plus d'avorter si elles en avaient le désir. Et qu'en Hongrie, le référendum de refus de Orban a été repoussé. Bon, ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est ce qui s'est passé au Portugal il y a un an ou deux. Il y a un an ou deux, les Portugais de Porto ont découvert la liste des Juifs qu'ils avaient expulsés en 1492. Et ils ont envoyé cette liste disant, si parmi les Israéliens, il y en a qui se retrouvent d'origine portugaise, nous sommes prêts à ce qu'ils retrouvent leur pays. Et pour ce fait, nous leur construisons une synagogue. Et j'ai vu moi-même les 30 premiers juifs ex-portugais retournés dans leur pays. C'est un des premiers signes, si je puis dire, vis-à-vis de l'antisémitisme au Portugal, d'un retournement culturel merveilleux, si j'ose dire.
Et l'Espagne, je crois, a fait pareil aussi en offrant la nationalité aux juifs chassés en 1492.
Voilà, l'Espagne a offert la nationalité. Malheureusement, comme je suis historien, je ne peux pas me contenter de cet enthousiasme un peu béat, mais que je revendique. Ils n'ont pas retrouvé la liste des Arabes qu'ils avaient expulsés.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à tous et à toutes. On se retrouve samedi prochain à 16h, juste après les infos, les routes de la musique avec André Manoukian et tout de suite un petit message à caractère promotionnel de nos annonceurs.